Chapitre 5 Verset 1 Citation de l'Écriture. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc fermes, et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Fin de citation. Si d'un côté nous avons à chasser la servante, autrement dit à abandonner le principe consistant à chercher à obtenir la bénédiction sous la loi, ce qui ne mène qu'à la servitude, d'un autre côté, veillons à tenir ferme dans la liberté par laquelle Christ nous a affranchis, et ne soyons pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Versets 2 à 4 Citation de l'Écriture. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Fin de citation. L'apôtre avertit maintenant ses croyants gentils avec un langage très direct. Il était l'apôtre choisi pour prêcher l'évangile aux nations et avait été utilisé pour leur bénédiction. Pour ces raisons, sa parole aurait dû avoir plus de poids sur eux que celle des autres. Il semble le leur rappeler lorsqu'il dit « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. » Être circoncis signifiait qu'il se mettait sous la loi, ce qui impliquait que, pour obtenir la bénédiction, il fallait qu'il garde la loi. Dans ce cas, il se privait de la bénédiction que la grâce donne par le moyen de Christ et de son œuvre. Quant à leur expérience dans la vie pratique, Christ et son œuvre s'étaient réduits à rien pour eux. Ils étaient déchus de la grâce. Versets 5 et 6 Citation de l'Écriture. Car nous, par l'Esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice. Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. Fin de citation. L'apôtre donne alors un très beau résumé du véritable état chrétien, en contraste avec l'état de ceux qui sont sous la loi. Il est caractérisé par l'espérance, la foi et l'amour. Nous ne travaillons pas dans l'espoir de nous assurer la bénédiction. Nous attendons la gloire qui est assurée par l'œuvre de Christ. Ce n'est pas la justice que nous attendons, mais l'accomplissement de l'espérance qui appartient à ceux qui sont déjà justifiés par la foi en Jésus-Christ. Étant justifiés par la foi, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, verset 2. La justice me donne la gloire, non pas simplement la grâce. Sous la loi, la justice demande que je sois exclu de la gloire, car n'ayant pas gardé la loi, tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Sous la grâce, la justice demande que le croyant aille dans la gloire. De même qu'elle a déjà été déclarée à l'égard de Christ en le plaçant dans la gloire. Jean 16, verset 10. Que les croyants soient avec lui dans la gloire est dû à Christ en vertu de son œuvre sur la croix. Par les arts de l'esprit, nous pouvons déjà maintenant jouir par la foi d'un avant-goût de la bénédiction de cette espérance. Dans le Christ Jésus, la circoncision ne peut rien ajouter à la bénédiction. Ni l'incirconcision empêchait la bénédiction. Le croyant, vu en Christ devant Dieu, est en dehors des deux cercles juifs et gentils. Cette nouvelle position ne peut être saisie que par la foi, et la foi est opérante par l'amour. L'apôtre a déjà dit dans son épître « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Chapitre 2, verset 20. Versets 7 à 10 Citation de l'Écriture. Vous couriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. J'ai confiance à votre égard par le Seigneur que vous n'aurez point d'autre sentiment, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera le jugement. Fin de citation. Dans la première partie de l'épître, l'apôtre a clairement montré qu'en retournant à la loi, ses croyants s'étaient écartés de la vérité. À partir du verset 7 jusqu'à la fin de l'épître, Il parle de l'effet de ce mal sur leur marche pratique. Il reconnaît qu'ils marchaient bien, et même couraient, dans le passé, quand ils étaient soumis à la vérité. Mais ils avaient été entravés en prêtant l'oreille au raisonnement de faux docteurs qui avaient apporté du trouble au milieu d'eux. L'effet pratique sur leur marche et sur leur voie prouvait clairement que ces fauteurs de trouble n'étaient pas conduits par le Dieu qui nous a appelés à courir avec patience la course qui est devant nous. Hébreux 12, verset 1. N'oublions pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière. Tout écart de la vérité, s'il n'est pas jugé, conduira à une accentuation du déclin et à la détérioration progressive de l'ensemble du corps. Hélas, la condition de la chrétienté, avec son mélange de judaïsme et de christianisme, ne montre-t-elle pas clairement que le levain des Galates a eu son effet sur elle? En regardant simplement la fausse doctrine, Paul prévoyait que ce levain finirait par corrompre tout le groupe de chrétiens. Toutefois, le Seigneur était au-dessus de tout, et regarder au Seigneur donnait à l'apôtre la confiance que ses saints finiraient par avoir la même pensée que lui sur ses docteurs et leurs faux enseignements. La pensée du Seigneur. Quant à ces fauteurs de troubles, l'apôtre était assuré qu'ils auraient à porter la culpabilité et le jugement de leur enseignement subversif. Qu'il est bon pour nous tous, dans les difficultés qui surgissent au sein du peuple de Dieu, de regarder au-delà des troubles et de ce qui trouble, et de voir le Seigneur au-dessus de tout, lui qui peut délivrer son peuple de tous les pièges et s'occuper de ceux qui causent du trouble. Verset 11. Citation de l'Écriture. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Alors le scandale de la croix est anéanti. Fin de citation. L'apôtre touche alors ce qui rendait l'enseignement de ces fauteurs de troubles si subtil. Nous avons déjà appris que leur motif sous-jacent était d'attirer à eux-mêmes. Chapitre 4, verset 17. Nous apprenons maintenant qu'ils présentaient ainsi aux saints une voie permettant d'échapper à toute persécution et effaçant le scandale de la croix. Pour un juif religieux, sous la loi, rien n'est plus offensant que la croix, car elle est la condamnation complète de l'homme devant Dieu, la preuve que la loi est violée et que l'homme est sous la malédiction. La prédication de l'Évangile qui proclame en grâce souveraine la bénédiction par la foi en Christ suscitera toujours l'opposition de ceux qui se confient dans leurs propres œuvres pour obtenir la bénédiction. L'apôtre voit clairement que si nous obéissons à la vérité, le résultat sera la persécution, aussi différente que puissent être les formes qu'elle prend au cours du temps. Versets 12 à 15. Citation de l'Écriture. Je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Lévitique 19, verset 18. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez pas consumés l'un par l'autre. Fin de citation. Voyant le mauvais effet de ces faux enseignements, l'apôtre ne peut que souhaiter que ces fauteurs de troubles soient retranchés du milieu des saints. Son amour pour la vérité et pour le bien des croyants le rendait intolérant vis-à-vis de ceux dont l'enseignement détruisait la vérité chrétienne, privant les saints de la vraie liberté et conduisant à une pratique qui, non seulement était incompatible avec le christianisme, mais qui était aussi entièrement contraire à la loi à laquelle il retournait. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Or, si la loi demandait l'amour, elle ne donnait aucune capacité de répondre à ses demandes. Et étant sainte, elle ne peut que nous condamner, puisque nous avons tous manqué à répondre à ses demandes. En contraste avec la loi, le christianisme nous donne une nouvelle nature qui aime obéir et faire la volonté de Dieu, et il nous donne une nouvelle puissance, le Saint-Esprit, pour accomplir les désirs de la nouvelle nature. C'est là la liberté, mais elle ne doit pas être utilisée, en effet, comme une occasion pour que la chair s'exalte, mais pour nous servir les uns les autres. La chair aime être servie, mais l'amour se plaît à servir. La propre justice qui cherche à s'exalter par ses œuvres n'a ni amour ni compassion pour les autres. De la même manière que ces fauteurs de troubles cherchaient à dresser des saints contre l'apôtre afin de les attirer à eux-mêmes, la vanité de la chair conduira toujours à chercher des fautes et à dénigrer les autres dans l'effort de s'exalter soi-même. Ce genre de comportement suscite forcément des conflits et des querelles parmi le peuple de Dieu. Et une fois que des frères ont commencé à se mordre et à se dévorer les uns les autres, ils devraient bien prendre garde, car si cet esprit n'est pas jugé, cela ne tardera pas qu'ils se consument les uns les autres. Hélas, combien de groupes parmi le peuple de Dieu ont éclaté et ont été dispersés par des individus en conflit les uns avec les autres, s'insultant les uns les autres, plutôt que se servant les uns les autres dans l'amour. Versets 16 et 17. Citation de l'Écriture. Mais je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Fin de citation. Il nous est maintenant rappelé que nous ne pouvons échapper aux convoitises de la chair qu'en marchant par l'Esprit. Le Saint-Esprit est ici pour glorifier Christ. La chair cherche toutes les occasions pour satisfaire sa vanité en s'exaltant elle-même. Il est clair, par conséquent, que la chair est opposée à l'Esprit et l'Esprit à la chair. Si nous marchons par l'Esprit, pensons, parlons et agissons par l'Esprit, nous serons délivrés de faire les choses qui nous sont naturelles comme hommes déchus. L'apôtre ne dit pas que si nous marchons par l'Esprit, la chair ne sera pas en nous, ni que la chair cessera de convoiter ou sera en quelque manière modifiée, mais que si nous marchons par l'Esprit, nous n'accomplirons point ces convoitises. On a dit à juste titre, la chair cherche à nous entraver quand nous voulons marcher selon l'Esprit, et l'Esprit résiste au travail de la chair pour l'empêcher d'accomplir ce qu'elle veut. Pensée de J.N. Darby. Verset 18. Citation de l'Écriture. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Fin de citation. En outre, si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes pas sous la loi. L'Esprit est venu pour prendre de ce qui est à Christ et nous le communiquer. Jean 16, verset 14. Il nous conduit à nous occuper de Christ, celui qui est mort pour nous et qui est vivant pour nous. L'Esprit ne nous conduira pas sous une loi nous imposant des exigences que nous ne pouvons satisfaire, mais sous l'influence d'un amour qui surpasse toute connaissance et auquel la nouvelle nature se plaît à répondre. Versets 19 à 21. Citation de l'Écriture. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Fin de citation. Dans les derniers versets du chapitre, l'apôtre oppose les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. Il semble qu'il résume les œuvres de la chair sous sept rubriques. Premièrement, il fait référence aux convoitises de la chair, la fornication, l'impureté, l'impudicité. Deuxièmement, la superstition de la chair, l'idolâtrie et la magie. Troisièmement, la méchanceté de la chair, les inimitiés qui conduisent aux querelles. Quatrièmement, la jalousie de la chair, les jalousies conduisant aux colères et aux intrigues. Cinquièmement, les raisonnements de la chair, conduisant aux intrigues, aux divisions et aux sectes, les écoles d'opinion. Sixièmement, l'amour-propre de la chair, conduisant aux envies et aux meurtres. Septièmement, le laisser-faire mondain de la chair, conduisant aux ivrogneries, aux orgies et aux choses semblables à celles-là. Tel est le caractère terrible et immuable de la chair, et ceux qui vivent dans ces maux n'hériteront pas du royaume de Dieu. Sachant que nous avons la chair en nous, et qu'elle ne change jamais, nous devons craindre l'éruption des péchés les plus ignobles, à moins que, par la puissance de l'Esprit, nos âmes soient occupées de Jésus, regardant vers lui pour recevoir la grâce à chaque instant. Versets 21 à 23. Citation de l'Écriture. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Fin de citation. Si nous marchons par l'esprit, nous ne serons pas seulement préservés des œuvres de la chair, mais nous produirons le fruit de l'esprit. La chair a ses œuvres, mais elle ne produit aucun fruit pour Dieu. L'esprit produit à la fois de bonnes œuvres et du fruit. Dans ce passage, l'apôtre ne parle cependant pas des œuvres, mais du beau caractère chrétien d'où découle toute vraie bonne œuvre. Nous ne sommes pas tous appelés à être des docteurs et des prédicateurs ou à entreprendre de grandes œuvres. Mais le fruit de l'esprit est possible pour tous, du plus jeune au plus âgé des saints, et il présente la condition essentielle pour tout vrai service. L'amour, la joie et la paix présentent l'expérience intérieure de l'âme. La longanimité et la bienveillance, l'attitude de l'âme envers les autres. La bonté et la fidélité, les qualités qui devraient nous animer dans nos manières d'agir avec les autres. La douceur et la tempérance sont les qualités qui nous amènent à considérer les autres avec patience, en contraste avec l'outrecuidance de la chair. Il n'y a pas de loi contre ces qualités qui font ressembler à Christ. La loi ne peut pas contrôler la chair et ne peut pas produire le fruit béni de l'esprit. Mais cela ne signifie pas que la loi soit opposée à ces qualités excellentes. Versets 24 à 26. Citation de l'Écriture. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Fin de citation. En outre, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. La vraie position chrétienne est d'accepter la croix de Christ comme jugement de Dieu sur la chair, afin de ne plus vivre selon la chair, mais par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Marchant ainsi, nous ne serons pas désireux de vaine gloire, provoquant les saints en se portant envie les uns aux autres.